Bonjour. Je vais dire, je suis étonné de vous voir si nombreux. Toute la semaine, je me suis dit, oulala, on va être très très peu. Alors je m'étais dit, tiens, si on est moins de 10, chacun lira un verset du psaume 137, qui a 9 versets. Si on est 8, on lira le psaume 124, qui a 8 versets. Si on est 7, on lira le psaume 87. Si on est 6, on lira le psaume 128. Si on est 5, on lira le psaume 100. Puis si on est 4, il n'y a pas de psaume. J'étais embêté. C'est vrai que tous nos jeunes sont à Bulle, à la RJ. Un certain nombre de femmes sont à un séminaire aussi. On se réjouit pour ces temps qui peuvent passer. Les jeunes, ce matin, ont été sous la neige, donc je crois que les tentes ont un peu ployé sous la neige et qu'ils ont dû rentrer au chaud pour dormir, mais ça fait partie aussi des bons souvenirs qui restent après. Vous savez sans doute que j'aime beaucoup la peinture. Et j'ai eu la chance, lorsque j'avais 16-17 ans, d'avoir entre les mains pendant 2 semaines une œuvre d'art exceptionnelle. Un exemplaire signé et numéroté de la Bible, illustré par Salvatore Dali. Le maître du surréalisme, peintre à la fois touché par le génie, mais aussi par la démesure, la paranoïa, la provocation. Un peintre fou, mais extrêmement doué, et techniquement, en tout cas, l'égal d'un Michel-Ange ou d'un Léonard de Vinci. L'Ancien Testament était illustré par toute une série de scènes de batailles, de massacres, de guerres, de punitions, des trucs terribles. Tout en noir et blanc. Il était d'une noirceur incomparable et pour moi, ça ne reflète pas le message de l'Ancien Testament. En tout cas, j'ai eu du mal avec. Dans la version que j'ai eue entre les mains, on trouve dans le Nouveau Testament, par contre, beaucoup plus de lumière et d'illustrations de personnages, notamment du Christ, mais aussi des illustrations de paraboles. Vous imaginez, Dali illustrer des paraboles, c'était facile pour lui, hein, avec toutes ses idées farfelues. Mais on trouve aussi de nombreux personnages et des peintures de nombreux personnages, notamment ceux qui ont été en contact personnel avec Jésus. Ceux qui vont venir à Jésus, dans les évangiles notamment, et que Jésus va guérir. On ressent dans ces illustrations, donc du Nouveau Testament, beaucoup plus nettement le message de salut. Et le panel de personnages qu'on a trouvé est particulièrement intéressant. Alors où je veux en venir ? Pas rester sur Dali quand même, parce que ce livre a beau être bien, voilà, on pense qu'au texte. Le texte que je vous propose de lire ce matin est présent dans 3 évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, et présente justement tout l'ensemble de textes présente de nombreuses guérisons, mais nous en lirons une seule et une des plus connues. Marc 2, versets 1 à 12, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, autrement le texte va s'afficher ici. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel était le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » La suite, merci. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés ? Ou de dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche ? Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Wow! Ça, c'est un truc incroyable. Je ne sais pas si vous y avez vraiment pensé. Bon, les maisons ne ressemblaient pas à celles qu'on a maintenant avec un gros toit pointu. C'était des toits plats avec souvent une trappe qu'on pouvait ouvrir pour aller sur la terrasse. Les chapitres des évangiles, avant et après, qui relatent ces faits, nous présentent ce que sont réellement les gens de l'époque. C'est comme une peinture de la société au temps de Jésus. Mais n'est-ce pas finalement aussi une peinture de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce qu'est notre société aujourd'hui ? Les différentes maladies que le Seigneur va rencontrer, tous ces gens qui viennent à lui et qu'il guérit, sont autant d'aspects de la triste condition dans laquelle il a trouvé les gens sur le chemin. Tout un tas de symboles. Marc 1, verset 40, la lèpre. La lèpre met l'accent sur la souillure du péché, sur notre souillure du péché. Le corps était souillé, l'âme était souillée. Matthieu 8, verset 2, vous lirez ces passages. La fièvre. La fièvre, on retrouve ce mot actuellement, l'agitation incessante de l'homme. On emploie ce mot fièvre. L'agitation incessante de l'homme dans le monde, sa course effrénée, mais finalement vers quoi ? Marc 1, verset 39, l'homme possédé par un démon est sous le pouvoir de Satan, totalement de Satan, comme bien des personnes dans notre monde. Marc 9, verset 27 et suivant, sourd, aveugle, muet, ont les sens fermés aux appels du Seigneur et ne savent pas ou ne peuvent pas prier. Enfin, le paralysé qu'on amène ici à Jésus démontre la totale incapacité de l'homme, notre totale incapacité finalement, à faire le moindre mouvement vers Dieu. Le paralytique ne dit rien, il attend. Au mieux, il espère. Jésus est de retour à Capernaum, dans sa ville. Sa renommée l'a précédé et s'était répandue comme une traînée de poudre. Et les habitants étaient curieux de voir le faiseur de miracles local en action. Ils s'intéressaient par ça. Partout où Dieu intervient avec puissance, les gens sont attirés. Mais pourquoi sont-ils vraiment attirés ou intéressés ? Par le spectacle ? Par l'extraordinaire, par la guérison, parce qu'ils sentent qu'ils pourraient être guéris aussi. On nous dit que, en fait, Jésus annonça fidèlement la parole à ceux qui se pressaient devant la porte. Et c'est là qu'intervient notre récit, ce qu'on a lu ce matin. Que fait Jésus ? La foule est immense. Il n'y a plus moyen de l'approcher. Tout le monde est agglutiné jusque dans la cour intérieure de la maison. Pas moyen de l'approcher pour ses amis avec leur ami paralytique couché. Alors ces débrouillards passent par le toit. Ils découvrent une partie du toit et ils descendent dans la maison avec. Il fallait avoir du culot. Il fallait avoir du courage. Il fallait avoir de la foi, finalement. Le texte nous dit justement Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, aie courage, tes péchés sont pardonnés. » C'est juste incroyable. Très précisément, nous voyons ici que Jésus répond au niveau de la foi, et d'abord au niveau de la foi. Au vu de l'énergie de cette foi qui a surmonté, on va dire toutes les difficultés présentes, pour placer le malade en présence du Seigneur, on sent dans le texte que c'est aussi et surtout la foi de ceux qui en fait l'ont porté l'ont apporté auprès de Jésus, que Jésus récompense en quelque sorte. Mais Jésus va agir en deux temps. Il va d'abord, et c'est ce qu'on lit dans notre texte, apporter le salut aux paralytiques en pardonnant ses péchés. Et moi, j'étais interpellé, voire même choqué. J'ai dit, c'est quand même pas juste. C'est quand même pas juste que leur foi était mise en avant par le Christ, à ceux qui l'ont apporté, et rien pour eux. Ils pardonnent les péchés du paralytique. Et eux, injuste ? Ou alors notre texte ne garde que ce qui est primordial pour nous et ce qui est intéressant pour nous. Et c'est justement cette annonce du pardon des péchés qui va provoquer la colère des scribes. Quelles sont les réactions des personnes présentes dans cette histoire ? D'abord les scribes, les pharisiens, les responsables religieux. Sur la forme, il semble qu'ils sont totalement aveuglés et ne voient, eux, rien d'autre que l'interdit. 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 On n'a pas tendance à voir souvent, nous, l'interdit, surtout chez les autres, d'ailleurs. L'interdit en vigueur dans leur propre monde. Comment cet homme peut-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Les scribes ne voient que la loi, ou plutôt leur loi au pluriel, mais leur loi bien souvent terrestre, par lesquelles ils vivent, et surtout grâce auxquelles ils règnent d'une main de fer et en toute puissance, une toute puissance tant humaine que politique que religieuse sur tout le peuple juif. Rien n'est plus important pour eux que l'obéissance à la loi, la règle, la norme, la bienséance de ce qu'ils ont mis en place, leur propre pouvoir, leur jugement. Ils ferment ainsi la porte carrément à l'autre, au moindre sentiment, à la moindre écoute, à la moindre réflexion logique ou de bon sens, et finalement à la foi. Sur le fond, ils n'ont aucune réaction. En tout cas, aucune réaction de leur part nous est relatée quant à ce paralytique. On a l'impression qu'ils ne le voient même pas. Ni lui, ni ses amis, et qu'au bout du compte, ni lui, ni sa guérison ne les intéresse en quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont vraiment vu quelque chose ou ressenti quelque chose ? On ne le sait pas. Ils ont seulement entendu Jésus avec l'action de trouver quelque chose pour le condamner. En tout cas, directement le critiquer. Ces scribes, comme les responsables religieux de l'époque, ne reconnaissent pas Jésus. Ne reconnaissent pas en Jésus, ni ce jour-là, ni les autres jours d'ailleurs, Dieu qui visite son peuple, accomplissant ce qui est dit ou prophétisé au psaume 103, dont ils avaient pourtant connaissance, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes infirmités. Autre personne dans notre texte, Jésus, quelle est sa réaction ? Sur la forme, si on essaie de se mettre dans le texte, Jésus semble dépité de leur réaction. Il reste comme incrédule. J'ai presque envie de dire déçu, voire défaitiste. Mais pourquoi est-ce que vous avez de telles pensées au-dedans de vous ? Sous-entendu, mais vous n'avez donc aucun sentiment, mais vous n'avez rien compris. C'est pas vrai, c'est la seule chose que vous trouvez à dire, à penser intérieurement, puisqu'ils ne l'ont pas exprimé. Mais Jésus va vite se reprendre et va les prendre à leur propre jeu par un petit monologue qui est quand même cocasse. On va y venir. Sur le fond du problème, par une question à laquelle il ne leur laisse cette fois pas la moindre chance de répondre. D'ailleurs, ils ne le pourraient pas. Et cette question est la suivante. Il s'adresse à eux. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous ? Allez-y, répondez. De dire aux paralytiques « tes péchés sont pardonnés » ou de dire aux paralytiques « lève-toi, prends ton lit et marche ». Qu'est-ce qui est plus facile ? Vous imaginez la question ? Et Jésus complète en donnant la réponse. Pour que vous sachiez, en fait, pour que vous sachiez qui je suis, pour que vous compreniez une fois que c'est moi l'envoyé, le Messie, qui est annoncé, mais que vous refusez de reconnaître. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, donc il répond directement à leur question, et il se tourne vers le paralytique, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et là, eh bien, il voit le paralytique se lever, prendre son lit et partir dans sa maison. On nous dit que toute la foule était stupéfaite, ébahie. Je ne pense pas que les scribes l'étaient. J'imagine qu'ils devaient avoir le masque, hein, comme on dit. La foule dit « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Sous le gouvernement de Dieu dans l'Ancien Testament, au milieu de son peuple, celui qui était affligé d'une infirmité l'était presque tout le temps à cause de certains péchés qu'il avait commis ou que ses ancêtres avaient commis et qui se transmettaient de génération en génération. De sorte que guérir un tel homme, c'était lui pardonner ce péché, ses péchés, les péchés qui avaient causé son infirmité. Et seul dans la loi de Moïse, seul Dieu avait ce pouvoir-là. C'est ça qui gêne les scribes. Ils ne le reconnaissent pas en tant que Dieu. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils blasphèment. Le mot « pouvoir » employé ici au verset 10 veut dire d'abord « autorité ». Le Christ avait l'autorité pour pardonner parce qu'il est Dieu. Jésus, en tant que Dieu sur terre, affirme clairement qu'il a cette puissance de pardon des péchés. Mais il affirme aussi qu'il a tout loisir et toute puissance pour exercer ce droit que lui refusaient aussi les scribes. Il confirme ainsi aux responsables juifs que celui qui possédait ce pouvoir était là, lui, devant eux, sur la terre, le Messie envoyé de Dieu. Il leur dit qu'il est légitime dans son action, dans sa pensée. Et le mot légitime vient de loi. Or, ça, ils devraient le comprendre, puisque ce sont les maîtres de la loi. Il leur explique clairement, le Messie, c'est moi, l'envoyé de Dieu. Je suis le Christ, celui qu'on nomme aussi le Fils de l'homme, titre que prend toujours le Christ lorsqu'il est rejeté. Pas étonnant dans cette situation que les scribes n'étaient pas en état de louer Dieu et de dire c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Dans la personne de Jésus, à ce moment-là, Dieu était là pour guérir Israël tout entier, si ce peuple avait voulu le recevoir. Il lui était donc aussi facile au Christ de dire « tes péchés sont pardonnés » que de dire « lève-toi et marche ». Il avait le pouvoir des deux, il avait la possibilité des deux. Jésus règle ainsi clairement le problème et semble leur dire « vous me rejetez en disant que je blasphème ? Regardez. Alors que tout ce monde me suit, car ils ont entendu parler de miracles et de guérisons, alors leur dit-il que les choses soient claires. Écoutez et regardez. Je suis Jésus envoyé sur terre. Fils de Dieu, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés et de guérir la souffrance morale ou physique. Mais le plus important pour moi, et c'est le message qu'il leur rappelle et qu'il nous rappelle, le plus important pour moi, c'est que je suis ici, c'est que mon message à moi, le but de mon envoi sur la terre, c'est le pardon des péchés pour tous ceux qui croiront en moi. Réfléchissons un instant à ce qu'auraient pu être nos réactions si nous avions été dans la foule ce jour-là. Ou quelles sont nos réactions ? Est-ce que notre société de 2019 est-elle vraiment si différente que celle de l'époque ? Est-ce qu'on n'est pas attiré aussi par les mouvements de foule, par les choses extraordinaires qu'on nous promet ? Plus c'est invraisemblable, plus on y croit, semble-t-il. Est-ce qu'on peut palper de la main ? On ne le croit pas. Nos maladies ne sont-elles pas aussi révélatrices qu'alors, notamment des priorités que nous mettons dans notre vie ? Rappelons-nous juste que les situations énumérées tout à l'heure, appelées maladies dans notre texte, c'est pour ça que je remploie ce mot, sont la conséquence de notre condition de pécheur. De notre condition de pécheur. Nous sommes à la base pécheurs et non de notre comportement actuel ou de notre manque de foi. C'est important de le rappeler. La frénésie à vivre dans ce monde sous le pouvoir de Satan, notre aveuglement, nos yeux, nos oreilles, nos bouches fermées au message de Dieu relatent l'emprise du péché sur nous depuis la chute originelle. Manque de foi ? Je crois que le bon chrétien a toujours tendance à voir le manque de foi chez l'autre et non pas chez lui. Alors que le statut de pécheur, au départ, c'est le lot de chacun. Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et tous sont privés de la grâce de Dieu. » Alors posons-nous la question, personnellement, quelles sont mes véritables priorités ? Quelle est ma véritable priorité ? Je ne sais pas s'il faut dire au pluriel ou au singulier, mais quelle est ma véritable priorité ? Ma santé, mon confort, mon bien-être ou le salut de mon âme. C'est-à-dire, sur quoi se base réellement ma foi ? Qu'est-ce qui me motive quand je viens à l'église ? Qu'est-ce qui me motive quand j'ouvre la Bible ou quand je cherche la volonté de Dieu ? Pour Dieu, dans ce texte, la priorité est clairement définie. Jésus agit dans ce texte comme Dieu, comme le Fils de Dieu, comme Dieu le Fils. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez, ça revient au même. Il sait qu'une maladie autrement plus grave ronge l'âme de ce paralysé. Il commence donc par le délivrer de cette maladie. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et ce même mal, ce péché, qui fait que nous sommes séparés de Dieu depuis Adam et Ève, ronge de la même façon chacun de nous. Dieu l'exprime clairement dans ce passage. Dieu veut d'abord notre salut. Et pour cela, il veut endiguer le péché et son origine par la foi en lui, Jésus-Christ, dont le sacrifice est l'unique plan de salut de Dieu pour notre âme. Dieu nous connaît. Il sait ce qui est le plus vital pour nous. Quand je dis vital, ça veut dire qu'est-ce qui nous apportera la vie ? La vie éternelle, bien sûr. C'est la priorité des priorités de Dieu pour nous. Dans Matthieu 6, au verset 31, nous trouvons ce texte. Ne vous inquiétez pas en disant « qu'allons-nous manger ?» ou bien encore « qu'allons-nous boire ?» ou encore « de quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Sous-entendu, ne vous en faites pas pour ça. Ça, c'est son problème. Ne vous en faites pas pour ça. Et notre texte continue. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, sous-entendu, le manger, le boire, le vêtir et tous les soucis de la vie, tout cela vous sera donné de surcroît. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un petit peu un pas à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Mais écoutez et regardez, comme il le dit au scribe ici. Concluons. La priorité de Dieu est de nous libérer et de nous délivrer de notre péché. Notre péché, c'est simplement finalement, le fait d'être éloigné, privé de Dieu, de ne pas avoir de relation et de contact avec lui. Ça, c'est notre péché. D'abord. C'est pour cela que nous nous débattons dans ce monde avec nos propres forces, mais en vain, puisque c'est lui qui a le pouvoir de nous les pardonner, de nous pardonner ce péché. Il peut aussi et nous le voyons dans ce texte, nous délivrer de nos maux, de nos souffrances physiques ou morales, ou pas, s'il le désire. Mais c'est lui qui juge si cela est nécessaire. Il est primordial pour nous de réaliser d'abord ce salut que Dieu nous offre, de l'accepter et nous laisser pardonner par Dieu. Et nous l'avons lu, et tout le reste vous sera donné en plus. C'est un peu le bonus, le cadeau gratuit. Ayant compris cela, nous pourrons alors à notre tour aussi témoigner, annoncer aux autres cette bonne nouvelle, leur expliquant que Dieu veut aussi d'abord pardonner leurs péchés pour pouvoir entrer en relation avec eux. Voilà le challenge de notre vie auquel Dieu nous appelle pour nous et pour tous ceux que nous côtoyons. Pour en finir avec notre texte, un commentateur a donné des surnoms aux quatre amis du malade. J'ai bien aimé ça. Il les a appelés sympathie, entraide, ingéniosité et persévérance. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, que c'était chaleureux. Réfléchissez. Sympathie, entraide, ingéniosité et persévérance. Et au bout, on ne sait pas si ceux-là sont sauvés. Ça nous interpelle sur pourquoi on fait les choses et comment est-ce qu'on transmet ce que Dieu nous a transmis. Efforçons-nous d'être un ami, un collègue, un voisin qui présente ses vertus pour que Jésus puisse nous dire ce qu'il déclara au centurion romain. Vous savez, celui qui était venu parce que son serviteur était malade. Jésus lui dit, va, Matthieu 8, verset 13, va, qu'il advienne selon ta foi. Va et qu'il advienne selon ta foi. Et notre texte continue, et à ce moment même, eh bien, je vous laisse découvrir la suite chez vous. Matthieu 8, versets 5 à 13, vous trouverez la suite chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ok, la suite, Matthieu 8, verset 14. Ça fait un peu le film, le numéro 2, la suite du film, j'aime bien. Merci pour ce... Pour ce rappel, si on peut se coucher, se lever chaque jour en se disant qu'on a un Dieu qui peut pardonner, mais qui a pardonné, qui a même pris ses péchés, nos péchés, pardon, sur la croix pour nous, et qu'en même temps on peut se rappeler que ce Dieu peut nous guérir, a la puissance de nous guérir de l'intérieur et de l'extérieur, ça fait du bien, je crois. Et c'est vrai que des fois on oublie, ou des fois on en doute, ou on met nos mets, ou nos difficultés, et... Ça fait du bien de se rappeler que ce pouvoir que Dieu a, cette puissance, il n'y a pas de mais. Je vous partage les annonces de la semaine. Mardi, on aura la suite de l'étude biblique sur Galates, donc Galates chapitre 3 et chapitre 4. Ça sera un Philippe qui fait l'étude biblique. Je ne vous dis pas quel Philippe, pour savoir lequel, il faudra venir voir. C'est pas mal comme information. Jeudi, Marie-Lou, elle est là. J'ai vu Marie-Lou pas. Il y a la chorale 20h. Jeudi, chorale à 20h, merci. Samedi, il n'y a pas d'annonce particulière, si ce n'est qu'il y a les travaux qui continuent, je vous le dis, pour encourager les personnes qui font les travaux, parce que je pense que si j'étais à leur place, je commencerais à trouver ça long. Donc vous pouvez taper un petit encouragement, un petit remerciement à ces personnes. Quand j'ai dit taper, je n'avais pas pensé à ça, c'est trop bon. Mais c'était plutôt taper comme ça. Là, par exemple, il y a Paul qui est là, mais ce n'est pas pour que vous tombiez tous sur Paul, mais on parle de Paul, on parle de Rémi, on parle de Philippe Bourgeas, on parle de Philippe Javois, on parle de Elodie qui fait le nettoyage souvent. Et peut-être... Pardon ?
Sonia aussi.
Sonia, Josette, c'est le problème, quand on commence à donner, on oublie. Mais un petit encouragement, parce qu'on voit que ça avance au fond, mais je crois qu'il y a encore quand même du boulot, donc un petit encouragement leur fera du bien. Donc samedi prochain, il y a des travaux. Et puis dimanche prochain, il y a un culte découverte, j'ai remis des flyers pour les enfants au fond, et ce culte découverte sera amené par l'autre Philippe, celui qui n'a pas fait l'étude biblique. Ça, c'est pour si vous m'avez suivi. Donc à vous de voir. Si vous voulez voir les deux Philippe, il faut venir mardi et dimanche. Bon dimanche à chacun.